Claudine. Un matin d'avril, vers 5 heures, Jules Moraveau, garçon boucher, remonta la rue Régis et se dirigea vers l'une des entrées du marché Saint-Maur. À la même heure, Aristide Speaker, marchand de poissons, sortit de la rue du Cherche-Midi par la rue Bénite et se dirigea vers l'entrée du marché opposée à celle de la rue Gerbillon. Juste et Aristide marchèrent l'un vers l'autre et sans dire mot se bourrèrent la face de coups de poing. Avant que l'on fût venu les séparer, Juste avait un œil gonflé comme un œil poché et Aristide le nez rouge comme une framboise meurtrie. On les emmena au poste et chacun d'eux put réfléchir à son aise sur les vicissitudes et horreurs de la guerre. Une demi-heure après que Cédric avait mis en émoi tout le marché, la petite Claudine arriva avec sa mère, la maman Turtaine, dans une grande charrette encombrée de légumes. Claudine sauta vivement à terre, caressa le nez du cheval et se mit à courir pour se réchauffer. C'était merveille de la voir se trémousser avec son madras sur la tête, sa grosse robe de buvet gris, ses manchettes de couleur et ses sabots bourrés de paille. Le soleil se levait, jaune comme ces nymphées qui nagent sur l'eau des étangs. La brume se dissipait, une bise glaciale sifflait dans l'air et le vent d'automne sonnait à plein corps ses navrantes fanfares. Les maraîchers arrivaient en foule, soigneusement emmitouflés, la figure enfouie dans une casquette, le nez seul sortant tout violet des plis d'un vieux foulard, les épaules protégées du froid par une couverture de laine grise vergetée de raies noires, les mains enveloppées de gros gants verts. Les uns déchargeaient leurs charrettes, les autres allaient boire un petit verre chez le marchand de vin, tandis que les chevaux, enchantés de se retrouver, se frottaient les naseaux et hennissaient joyeusement. La chaussée était encombrée de légumes et de fruits, et un grand poltron, coupé par le milieu et couché sur le dos, arrondissait sa vasque jaune sur la pourpre sombre des pivoines jetées en tas, pêle-mêle sur le rebord du trottoir. Trois boutiques s'étaient seules ouvertes, celle d'un boucher, d'un marchand de vin et d'un pharmacien. La porte vitrée du cabaret était imprégnée d'une nuée qui ne laissait voir les buveurs qu'à travers un voile. Ils ressemblaient ainsi à des ombres chinoises. Ces silhouettes dansaient sur le mur et sur la porte comme sur un drap blanc. Les nez se dessinaient bizarrement, les moustaches semblaient démesurées, les barbes devenaient colossales et les chapeaux se cassait de bruyèresque façon. Par instant, la porte s'ouvrait, un bruit de voix s'échappait de la salle. Celui qui sortait s'enfonçait les mains dans les poches et courait bien vite à sa boutique ou à sa voiture. Tout en travaillant et buvant, on échangeait le bonjour, on se serrait la main, on gloussait, on riait. Le boucher allumait le gaz, jetait sur le dos de ses garçons des chartes et de viande. Sa femme baillait et lavait avec une éponge la table de marbre de l'adventure, pendant que, suspendu par les pieds à des crocs en fer fichés au plafond, le cadavre d'un grand bœuf étalait sous la lumière crue du gaz le monstrueux écrin de ses viscères. La tête avait été violemment arrachée du tronc, et des bouts de nerfs palpitaient encore convulsés comme des tronçons de verre, tortillés comme des liserés. L'estomac, tout grand ouvert, bâillait atrocement et dégorgeait de sa large fosse des pendeloques d'entrailles rouges. Comme en une serre chaude, une végétation merveilleuse s'épanouissait dans ce cadavre. Des lianes de veines jaillissaient de tous côtés, des ramures échevelées fusaient le long du torse, des floraisons d'intestin dépouillaient leurs violâtres corolles et de gros bouquets de graisse éclataient tout blancs sur le rouge fouillis des chairs pantelantes. Le boucher semblait émerveillé par ce spectacle, et près de lui, sur le trottoir, deux vieux paysans avaient appuyé leurs pipes l'une sur l'autre et tiraient de grosses bouffées. Leurs joues s'enflaient comme des ballons et la fumée leur sortait par les narines. Ils aspirèrent une bonne provision d'air froid pour se rafraîchir la bouche et mirent un petit morceau de papier sur le tabac qui se prit à grésiller et dessina tout flamboyant de capricieuses arabesques sur le papier qui se consumait. « Voyons, Claudine, dit la mère Turtaine, tu te réchaufferas aussi bien en déchargeant la voiture qu'en sautant, allez, viens m'aider. »« Voilà, maman. » Et elle se mit en face de l'aile gauche de la carriole et reçut dans les bras des bottes de fleurs et de salade. « Dis donc, lui dit une petite paysanne à l'oreille, il paraît que Juste et Aristide se sont battus ce matin. » « C'est bien sûr pour toi. »« Oh, le vilain garçon, » dit Claudine, dont la petite figure devint triste. « Mais je leur avais tant commandé d'être sages. »« Ah, tu es bonne, mais ils sont comme deux coqs. Ils t'aiment tous les deux et tu n'as pas encore décidé à faire un choix. »« Je sais pas, moi, je les aime autant l'un que l'autre. Et maman ne les aime ni l'un ni l'autre. Comment veux-tu que je choisisse ?» Satané enfant, dit la mère Turtaine, qui sauta brusquement de sa voiture. Elle bavarde, et l'ouvrage n'avance pas. Je vais aussi vite faire, et toute seule. Voyons, Claudine, va nettoyer notre case et préparer les chaufferettes. La petite s'éloigna et continua avec son amie à disputer des mérites et défauts de ses deux amoureux. La situation était en effet embarrassante. Claudine les avait tous deux comme une sœur aimerait leurs enfants. Mais, dame, de là à choisir entre eux un mari, il y avait loin. Juste et Aristide ne se ressemblaient pas comme figure, mais chacun dans son genre était aussi beau ou aussi laid que l'autre. Aristide était peut-être plus bel homme, mais il témoignait d'un penchant prononcé pour l'adiposité. Juste était moins bien taillé. Son encolure était moins large, mais il promettait de rester musculeux et point trivialement bardé de graisse comme son adversaire. Juste avait de jolis cheveux blonds, tout frisottants, mais il n'était pas fourni et par endroits l'on entrevoyait sous le buisson une petite clairière. Aristide avait des cheveux blonds, roides et sans grâce, mais d'une nature plus nuance, plus tendre. Et puis, c'était une véritable forêt luxuriante. La raie était à peine tracée, comme un tout petit sentier dans une épaisse forêt. Tous deux étaient francs et bons, mais batailleurs. Tous deux n'avaient pas de fortune, mais étaient courageux et ne reculaient pas devant l'ouvrage. « Enfin, » disait la petite Marie en se posant devant Claudine, qui tournait les rubans de son tablier d'un air indécis. « Cette situation-là ne peut pas durer. Ils vont finir par s'égorger. Je parlerai à ta mère si tu n'oses. »« Oh non, non, je t'en prie, ne dis rien. Maman me gronderait et leur dirait des sottises et leur défendrait de m'adresser la parole. » »« Voyons, Claudine, nous allons peser les qualités et les défauts, les avantages et les désavantages de chacun, et puis nous verrons lequel des deux vaut le mieux. D'un côté, Aristide est un brave garçon. Oui, pour ça, c'est un brave garçon. Mais sais-tu bien qu'il deviendra comme un muid? Et dame, c'est bien désagréable d'avoir pour mari un homme dont tout le monde plaint la corpulence. Il est vrai, poursuivit-elle, que Juste est un brave garçon. Oh oui, pour ça, c'est un brave garçon. « Bien, mais sais-tu qu'il demeura toute sa vie maigre comme un échalas? Et ma foi, je t'avoue qu'il est bien triste de vivre tous les jours avec un homme qui a l'air de mourir de faim. » De sorte que, reprit en souriant Claudine, le vieux serait d'épouser un mari qui ne fût ni trop gras ni trop maigre. Mais alors il ne faut prendre ni Juste ni Aristide. « Ah, mais non !» s'écria Marie. « Ces garçons t'aiment, et il faut au moins que l'un des deux soit heureux. »« Chut, je me sauve, j'entends maman qui gronde. » disait la mère Turtaine d'une voix courroucée, les mains plantées sur les hanches, le ventre proéminent sous son tablier bleu. « C'est bien la peine d'élever une jeunesse pour qu'elle écoute ainsi les ordres de sa mère. Elle n'a pas seulement balayé notre place, il n'y a pas moyen de s'y tenir tant il y a des plus sûrs. « Voyons, petite maman, ne me gronde pas, » dit la fille, en prenant un petit air câlin qui ne justifiait que trop l'amour des pauvres garçons pour elle. « Je ne bavarderai plus autant, je te le promets. » Elle prépara sa devanture et demeura songeuse. Elle se rappelait maintenant que les deux rivaux s'étaient battus et que c'était pour cela que ni l'un ni l'autre n'avait balayé son petit réduit ainsi qu'ils avaient coutume de le faire. Pourvu qu'il ne se soit pas blessé, pensait-elle, et elle se sentait plus d'inclination pour celui qui aurait le plus souffert. « Voyons, » dit sa mère, « je vais chercher notre café, que tout soit prêt pour quand je reviendrai, et que je puisse déjeuner tranquillement. »« Est-il vrai, » dit Claudine à la femme Truchard, sa voisine et tante, « que l'on s'est battu ce matin ici ?»« Oui, on me l'a dit. C'est deux mauvais sujets. On ne devrait pas dans des batailleurs comme ça, ou les mettre dans l'armée, puisqu'ils aiment les coups. » Petite Claudine se tut. Et cessa la conversation. Un quart d'heure après, la maman arriva, tenant dans chaque main un grand bol plein d'une liqueur fumante et saumâtre. « Ah bien, j'en apprends de belles !» cria-t-elle. « Il paraît que ces deux grenades, de Just et d'Aristide, se sont battus ce matin à cause de toi. Ah, qu'ils s'avisent un peu de rôder autour de nous. Ah, c'est moi qui vais les recevoir. » Et toi, si tu leur adresses la parole ou si tu réponds à leurs questions, tu auras affaire à moi. Mais a-t-on jamais vu ? La pauvre fille avait le cœur gros et ne pouvait manger. Soudain, elle pâlit et renversa la moitié de son bol sur sa jupe. Les deux adversaires venaient d'entrer dans le marché, l'un avec son œil bleu, l'autre avec son nez tout escarbouillé. Ils se séparèrent à la porte, et chacun s'enfuit à sa boutique par une allée différente. Toute la journée, elle les regardait attentivement, se disant « Le pauvre garçon, comme il doit souffrir avec son visage enflé, ce nez turgide et sanglant la désespérait. » Puis elle regardait l'autre. « A-t-il l'œil abîmé ?» murmurait-elle. Et cet œil, qui débordait d'un cercle de charbon, qui faisait passer de petits frissons dans le dos. « Faut-il qu'un homme soit brutal, » pensait-elle, « pour frapper ainsi un ami aux yeux ?» Elle se prenait à détester Aristide, puis elle voyait ce nez turgescent, elle en venait à exécrer le gros Juste. Elle y songea toute la nuit et ne put dormir. « Que faire ?» pensait-elle, « mais que faire ?» Ce n'est pas de leur faute s'ils m'aiment. Je tâcherai de leur parler demain et je leur ferai promettre de ne plus se battre. » Elle s'endormit sur cette heureuse idée et prépara dans sa petite cervelle de belles paroles pour les apaiser. Elle s'habilla le matin toute songeuse, aida sa mère à atteler le cheval et, chemin faisant, de Montrouge au marché, elle repassa son petit discours. La difficulté était de leur parler sans être vue par sa mère. Elle s'ingéniait à trouver des prétextes pour s'échapper un instant de la boutique et parler à chacun d'eux sans être vue par l'autre. Enfin, le hasard me fournira peut-être une occasion. Et sur cette pensée consolante, elle fouetta vivement le cheval qui prit le petit trot et fit sonner dans les rues endormies les semelles de fer qu'il avait aux pieds. Les deux rivaux étaient à leur place et se jetaient des regards défiants. Elle eut l'air de ne point les voir, déchargea la voiture et se promit vers 9 heures, alors que le marché serait rempli de monde, de s'échapper. En effet, vers 7 heures, une affluence de femmes mal peignées, couvertes boîte de chalets filochés, jetant un regard de joie sur leurs chiens qui folâtraient dans les ruisseaux, inonda les rues étroites qui enserrent le marché. Sous prétexte de chercher une botte de persil qu'elle avait égarée, Claudine se faufila dans la foule et s'enfuit à la boutique de Juste. Il pâlit à sa vue, rougit subitement, et son œil devint d'un noir plus foncé. Sa boutique était encombrée de clientes. Il leur répondait à peine, avait grande envie de les envoyer au diable et n'osait le faire, attendu que son patron était là et le surveillait du coin de l'œil. « Juste, lui dit-elle enfin, à voix basse, oubliant toutes les belles phrases qu'elle avait préparées. Promettez-moi de ne plus vous battre. Mais mademoiselle, promettez-moi, ou je me fâche pour toujours avec vous. Je vous le promets, dit-il tout rouge. Merci. » Et elle se sauva en courant et rentra chez sa mère. Un quart d'heure après, elle parvint également à s'enfuir et s'en fut trouver Aristide qui la regarda d'un air effaré, vacilla sur ses jambes, balbutia quelques mots et fut obligé de s'asseoir au grand ébahissement des acheteuses qui crurent qu'il se trouvait mal et se mirent à crier. Elle ne dut que le temps de se sauver. « mon Dieu, murmura-t-elle, quel malheur! Je n'ai pourtant rien fait pour qu'ils s'aiment comme elles, comme cela, ces pauvres garçons. » Vers midi, Juste s'en va rôder autour d'elle et lui glissa un petit mot qu'elle s'en fit offrir dans la rue. « Je ne puis vivre ainsi, disait-il. Je vais vendre mon fonds et quitter le marché. »« Oh ! » s'écria-t-elle, « celui-ci m'aime le plus. Oh, si maman veut, je l'épouse. » Un quart d'heure après, comme elle allait chercher du cerfeuil chez une amie, Aristide lui dit « Mademoiselle Claudine, je vais m'en aller, je suis trop malheureux. Oh mon Dieu, il m'aime autant que l'autre, c'est désespérant d'être aimé ainsi. » Et tout en disant cela, elle éprouvait malgré elle une certaine joie à se sentir ainsi adorée. Elle revint, plus perplexe encore. Que faire ? Telle était la question qu'elle se posait sans cesse. En attendant, les jours passaient et les amoureux ne parlaient pas. Le premier qui partira sera celui qui m'aimera le plus, pensait-elle. Puis elle se reprenait et se disait tout bas. Non, 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 celui qui me quittera le premier pourra vivre sans me voir, donc qu'il m'aimera moins. En attendant, chacun restait à sa place. C'était fait cette réflexion bien simple que partir, c'était laisser le champ libre à son adversaire, qui ne partirait certainement plus. Donc il s'observait et éprouvait de furieuses tentations de se cribler la figure de nouvelles gourmades. Malheureusement, cet amour insensé que les petits yeux et les bornes jouent de Claudine avait allumé dans le cœur des pauvres garçons, fut bientôt connu de tout le quartier. Le coiffeur d'en face, enchanté d'avoir une occasion de parler, en promenant ses mains graisseuses et son rasoir, non moins graisseux sur la figure de ses clients, entra dans d'interminables discussions sur la beauté et la coquetterie de Claudine. Et ses propos, grossissant à mesure qu'il roulait de bouche en bouche, ne devaient pas tarder à arriver aux oreilles de la mère Turtaine. Le marché, c'est une miniature de ville de province. On y passe son temps à médire de son prochain et à le piller autant que faire se peut. Deux occasions agréables, si jamais il en fut. Les concierges du quartier, las de se plaindre de leurs locataires et de déplorer le sort qui les avait fait concierges, saisirent cette occasion d'interrompre leur doléance et s'empressèrent de dire pique-pente de la pauvre fille. Exaspérée par tous ces commérages et par toutes ces médisances, la mère Turtaine résolut de l'envoyer chez sa sœur à plaisir dans le département de Seine-et-Oise. Claudine partit, le cœur gros, en priant sa mère de la rappeler bientôt près d'elle. Les premiers jours lui semblèrent bien tristes, et elle écrivit à sa mère une lettre dans laquelle elle la suppliait de lui permettre de revenir au marché. Bientôt, cette lettre qu'elle désirait tant lui causa de terribles craintes. En quelques soirées, son sort avait changé. Un soir qu'elle se promenait près de la Tremblay, elle fit rencontre d'un grand et beau garçon dont la mine éveillée et les allures puissantes lui plurent tout d'abord. La première fois, il la regardait timidement, et sentant les yeux de la jeune fille fixés sur les siens, il baissa la tête, devint rouge du cou aux oreilles et ne put ouvrir la bouche. La seconde fois, il osa l'aborder, mais il balbutia comme un imbécile et devint plus rouge encore que la première fois. La troisième, il ouvrit la bouche, parvint à bredouiller quelques mots, à lui dire qu'il la connaissait, que son père était un grand ami de sa mère, et depuis ce temps, ils étaient devenus les meilleurs amis du monde. Le soir, ils s'échappaient, se rencontraient au bas de la côte, et se promenaient le long d'un petit ruisseau. Claudine marchait doucement, les yeux fixés à terre, les mains dans les poches de son petit tablier, et elle se sentait oppressée de délicieuses épouvantes. Lui la regardait à la dérobée, et se bourrait d'envie d'embrasser une petite place rose, sur laquelle bouffait comme une touffe d'herbe folle un petit bouquet de cheveux pâles. 20 fois il fit sur le point de se pencher et d'effleurer de ses lèvres cette rose moussue, puis au moment où il se courbait et où sa bouche frôlait les cheveux, Claudine faisait un mouvement et vite il reprenait son calme et marchait à côté d'elle, maudissant sa timidité, se jurant que la première fois, il serait plus hardi. Un soir, il marchait tout au bord du ruisseau. La lune avait rejeté sa fourrure de nuée blanche et se mirait dans l'eau. On eût dit une faucille d'argent posée sur une bande de noir bleu. Notre amoureux s'approcha de Claudine, et au moment où il allait enfin lui embrasser le cou, il aperçut dans le ruisseau l'image de sa bien-aimée qui souriait de le voir si gauche. Cette fois, il perdit la tête et embrassa si fort la petite place rose qu'elle resta blanche pendant quelques secondes et devint subitement rouge. Tandis que Claudine simulait une colère qu'il était loin de ressentir, Juste et Aristide, que leur commune détresse avait rapprochée, alternaient en des strophes désolées sur la bonne mine et les charmes de leur fugitive déité. Néanmoins, comme la plus cuisante douleur finit par se calmer, il arriva qu'un beau jour, l'un et l'autre se marièrent. Et encore qu'elle ne les aima point, Claudine ne laissa pas que d'être un peu vexée lorsqu'elle apprit cette nouvelle. Être si vite oubliée, mais les hommes sont donc des monstres. Vois-tu, ma fille, lui dit silencieusement la maman Turtaine, qui était venue la rejoindre à plaisir. Plus un homme aime, moins longtemps il reste fidèle. Retiens bien ça. Pourvu que mon amant ne m'aime pas autant que Juste et Aristide, pensa Claudine. Et elle lui défendit de l'aimer. « Si tu m'aimes beaucoup, je ne t'épouse pas, » dit-elle. « Mais ah, c'est à prendre ou à laisser. »« J'accepte. » »« Il est donc bien entendu, Claudine, que je ne t'aime point, que je te déteste. »« Ah, mais non, je ne te demande pas de me détester. »« Je veux seulement que tu ne m'aimes pas beaucoup tout d'abord. » »« Et ensuite ?» Ensuite, nous verrons. 15 jours après, le mariage eut lieu. Ah, Claudine, la petite place rose est restée rouge depuis cette époque, et votre mari ne vous aime pas. Mais quelle couleur arborera-t-elle alors qu'il vous aimera et que vous lui permettrez de faire sonner sur elle le grelot des baisers,